Radio Okapi. Le journal Jacques-Yves Molima.
Dame, la pluie a fait des victimes dans la ville de Butembo hier jeudi. Trois personnes sont mortes englouties lors d'un éboulement causé par les eaux de cette pluie dans une carrière d'extraction de gravier. La politique et le juridisme semblent dédouaner les responsables de l'échec du projet Bukangalonzo, ainsi pense l'ASBL Zibulameso, qui demande de se faire l'ouverture du procès Bukangalonzo à la Cour de cassation. Enfin, nous recevrons dans cette édition du journal Karna Soro, chef de bureau de la MONUSCO Sud Kivu. Il nous fera le point sur la fermeture de la base militaire de la MONUSCO dans le secteur de Bibokoboko, dans le sud du Sud Kivu. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Trois morts et plusieurs dégâts matériels, tel est le bilan provisoire d'une forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Butembo dans la journée d'hier jeudi. Les victimes ont été englouties dans un éboulement de terre, dans une carrière d'extraction de gravier. Leurs corps ont été levés du lieu des drames ce vendredi matin. Florida Kambou pour les détails.
Les victimes sont toutes des femmes dont l'âge varie entre 35 et 38 ans, habitant la localité de Musimba, dans les territoires de Lubero, qui partagent la limite avec la ville de Butembo, dans sa partie sud. Elles ont été surprises par un glissement de terrain alors qu'elles étaient en train de travailler dans une carrière de gravier au quartier Malende. C'était juste après la forte pluie qui s'est abattue dans la ville, rapporte Oster Kateri, chef du dit quartier. Il affirme que toute activité d'extraction des matériaux de construction est interdite dans cet espace depuis 2 ans, à la suite de la mort de 2 autres personnes dans des circonstances similaires. Outre ces dégâts humains, plusieurs maisons ont été également détruites au quartier Nguéré dans la commune Kimemi. Cette même pluie a été à la base d'une coupure générale d'électricité dans les villes de Butembo et Beni durant quelques heures jeudi après-midi, rapporte Philemon Moussavouli, communicateur de la société Énergie du Nord Kivu, ENK, qui alimente les 2 villes en électricité. Butembo, Florida Kaambu, Radio Kapi.
Entre-temps, territoire de Masisi, plusieurs établissements scolaires de la chefferie des Baoundé sont menacés d'écroulement, ce soit à cause de plusieurs cas d'inondations dans des vallées engorgées, soit à cause des rivières en crue, surtout pendant cette période pluvieuse. C'est du moins l'alerte lancée hier jeudi sur Radio Okapi par le noyau de la société civile du groupement Mouvouni Changa en chefferie des Baoundé. Et du coup, les écoles primaires et secondaires sont dans une situation d'extrême urgence et il faut intervenir selon cette source, Jules Ngalawamona.
À l'Institut Kichanga de Renga, près de Bweremana, par exemple, le bureau de l'école ainsi que 2 classes ont déjà été évacuées et leurs pensionnaires obligés de se faire sous-loger dans des classes voisines, elles-mêmes menacées par la rivière Renga. Celle-ci, souvent en crue, indique M. Zaïga Hama, président de la société civile du groupement Mvuni Changa, sape au jour le jour ses berges, exposant toujours davantage les bâtiments scolaires. Ce cas d'espèce est, toujours selon M. Zaïga, un cas d'extrême urgence, sans en exclure d'autres. Goma, Jules Ngalawamona, Radio Okapi.
Dans la ville de Kisangani, la caravane sanitaire à consultation gratuite lancée hier dans la commune de la Tchopo va se clôturer ce vendredi soir. Cette activité est organisée par l'ASBL Malaika International pour la prise en charge des personnes démunies. Le lancement a été présidé par le ministre provincial de l'Environnement, représentant l'autorité provinciale à la cérémonie d'ouverture de cette campagne. Théâtre de cet événement, le terrain de football de la paroisse Saint-Joseph, artisan de La Tchopo. Un reportage de Jacques Moukonkolé.
Consciente du coût élevé des soins de santé en RDC, l'ONG Malaika International a résolu de venir en aide aux personnes dépourvues de moyens financiers pour s'en procurer. Zaina Kalombo, fondatrice de cette ASBL, énumère les diverses pathologies soignées par ces médecins.
Nous soignons la malaria, des cas de grippe, aussi même des kystes ovariens, des cas de myome. Nous soignons aussi des cas de tuberculose, les gens qui ont le VIH, nous avons des médicaments à leur donner gratuitement, les gens qui ont la lèpre, et même s'il y a des cas les maladies aussi du diabète et l'hypertension artérielle.
Cette assistance tombe à pic puisque en majorité, les habitants de la Tchopo en ont besoin faute de moyens financiers, déclare le médecin-chef des zones de santé, docteur Lolo Ofoili.
Dans les hôpitaux, il y a beaucoup de cas d'évasion, il y a des cas de décès liés au retard des consultations, même des prises en charge. Et la population a du mal même à se procurer des médicaments.
Les bénéficiaires se disent satisfaits des soins gratuits qui leur sont offerts, signe selon eux. que le pays avance.
En tout cas, tout ce pays n'a pas geste naïe.
En tout cas, nous sommes contents de ce geste. Le diagnostic et les soins sont gratuits, surtout pour le diagnostic, pour découvrir la maladie dont vous souffrez. La gratuité, même pour les soins médicaux, c'est que le Congo avance.
Congo, ils ont qu'une gare à Liboso.
Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Les forces vives du Kwango réunies au sein de l'ASBL Zibolamenso demandent l'ouverture du procès Bukangalonzo à la Cour de cassation étant donné que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Elles ont fait cette déclaration le 12 janvier dernier après avoir constaté que la politique et le juridisme semblent dédouaner les responsables de l'échec de ce projet. De ce fait, elles demandent aussi une véritable politique de réhabilitation de cette machine de production en tenant compte des autochtones pour éradiquer la malnutrition dans les provinces de la RDC. Un extrait de leur déclaration nous est proposé ici par Fulbert Balolagué.
L'ASBL Zibolamenso, voix autorisée de la jeunesse congolaise, exige l'ouverture immédiate du procès du parc agro-industriel à la Cour de cassation, étant donné que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Que la Cour constitutionnelle indique sans ambiguïté à l'opinion nationale et internationale qu'elle est le juge naturel d'un ancien président de la République et d'un ancien premier ministre pour les infractions de droit commun commises lors de l'exercice de leurs fonctions. Que le président de la République, garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, y compris les cours et tribunaux, veille à sécuriser un procès équitable et transparent afin de rétablir la population et même la nation congolaise dans ses droits qui lui reviennent suite à la débâcle de ces projets. L'ASBL Zibolamenso, jeunesse consciente et engagée de la province du Kwango, demande à la population congolaise en particulier et congolaise en général de rester éveillée et de se mettre debout quand il le faut pour mener ce combat pour le rétablissement de la vérité.
Autre nouvelle, le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO, salue l'arrestation d'un des chefs rebelles ADEF, Benjamin Kisokeranio. Pour son coordonnateur, cette arrestation contribue à fragiliser le mouvement ADEF. Par la même occasion, il demande que ce chef rebelle soit mis à la disposition de la justice congolaise afin qu'il réponde de ses actes, notamment les massacres contre la population congolaise à l'est du pays. Maître Omar Kavota s'explique au micro d'André Kitenge.
Nous nous réjouissons d'avoir appris de cette capture de Benjamin Kisokeranio, qui est l'un des cerveaux des ADF-MTM. Nous pensons que sa capture contribuera à fragiliser ce mouvement terroriste parce que non seulement il est une tête passante en tant qu'intervenant dans le circuit d'intelligence, mais également il est un mobilisateur de fonds pour le mouvement. Et donc, nous saluons cette capture qui résulte des efforts conjoints entre l'UPDF et le FARDC et nous pensons qu'il devra être mis à la disposition de la justice congolaise pour qu'il réponde des actes, entre autres, de ces séries de massacres qui ont été perpétrés par les ADF-MTM contre la population congolaise dans plusieurs villages, dans plusieurs agglomérations, dans la ville de Beni, dans plusieurs territoires, notamment de Beni, d'Irumu, de Mambasa et ailleurs en République démocratique du Congo.
Pendant ce temps en Ituri, 4 personnes ont été tuées et 4 autres blessées, dont un enfant de 3 ans amputé de sa jambe. C'est le bilan de l'attaque hier soir de la milice Codeco à Sebaïdo dans le territoire de Djougou. Alors que des efforts de sensibilisation des membres de cette milice à déposer les armes se poursuivent en province, les habitants et notables de cette partie du territoire demandent à l'armée de traquer ces inciviques. Ezekiel Mouzalia.
Il est 20h heure de l'Est lorsque des tirs à l'arme lourde ont retenti dans la zone. Des miliciens de la Codeco venaient de prendre d'assaut les villages Sebaïdo situés à 2 km du centre de Kilo dans le territoire de Djougou, ce qui a créé une énorme panique dans la zone. Selon un notable du milieu, Jean de Téléphone, le bilan de cette attaque fait état de 4 personnes tuées à bout portant. Les victimes, dont 2 femmes, sont toutes des agriculteurs retrouvés dans leur domicile. Dans leur fuite, 4 civils ont été atteints par balles. Parmi eux, un enfant de 3 ans amputé de sa jambe, indique la même source. Plusieurs sources concordantes précisent que l'armée est à la poursuite de l'ennemi depuis hier soir. Vital Tungulo, un leader communautaire local, demande à la MONUSCO de dépêcher une équipe d'urgence sur le terrain pour évacuer les malades qui, dit-il, sont dans un état critique. De son côté, la Task Force pour la paix, une structure dépêchée par le chef de l'État en Ituri, condamne cette attaque contre des civils. Nous n'avons pas encore la réaction de l'armée à ces sujets. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Toujours en Ituri, la société civile de Baïma Nord dans les territoires de Djougou salue les interventions des humanitaires et de la MONUSCO en faveur de quelques 60 000 personnes déplacées qui sont actuellement hébergées au site de Roé, à 105 km au nord de Bounia. Dans une déclaration faite à Radio Okapi ce vendredi, cette structure cite par exemple l'assistance en vivres et non-vivres distribuée par le Programme Alimentaire Mondial PAM et certaines ONG, notamment Médecins Sans Frontières, qui a fourni des soins médicaux aux déplacés ces trois dernières semaines. Pour Charité Banza, son président, ses appuis donnent de nouveau de l'espoir à ces personnes vulnérables qui vivaient dans des conditions précaires dans ces lieux après avoir fui les attaques de la CODECO dans leur village. Il ajoute que grâce aux casquets bleus de la MONUSCO qui ont renforcé leur présence dans la région, ces déplacés peuvent aujourd'hui se sentir en sécurité. Charité Banza, président de la société civile de Baïma Nord, est joint au téléphone par Martial Kizabiamongo.
Nous avons été satisfaits par l'assistance amenée par l'organisation PAM dans les milieux. PAM a assisté la population déplacée des rois à vivre, surtout à farine de manioc, farine de maïs, ainsi que des petits pois, même de l'huile. Et maintenant, les enfants qui prenaient des terres comme bruit, on s'essaie en parlant de ça parce qu'il y a quand même des bruits à donner parce que PAM a bien fait. Également, il y a PPSP qui a remis des bâches, ainsi que des quelques articles de ménage. Nous félicitons également l'effort fourni par MSF. Alors, MSF est avec nous sur place, sur terrain, et assiste à la population sans distinction, et c'est à faire aussi notre joie. Je ne manque pas à placer un mot à l'égard de la MONUSCO. En tout cas, nous sommes reconnaissants de ce que la MONUSCO a rendu comme un service au niveau de la sécurité et la protection pour la population déplacée. La MONUSCO a très bien se planté encore d'autres lieux où ça peut encore favoriser le retour de la population déplacée, même dans la journée, dans leur cherche de quoi manger.
Au sud Kivu, le bureau urbain de la société civile de Bukavu a rencontré ce jeudi 13 janvier le général Yav Avula Robert, commandant de la 33e région militaire. La société civile a plaidé pour la suppression des checkpoints dans la ville et le renforcement de la sécurité. Elle a également proposé la mise en place d'un cadre de concertation entre les services de sécurité et la société civile pour évaluer les résultats des actions menées conjointement. Rachel Kessembangu nous en dit plus.
La société civile de Bukavu a saisi cette rencontre comme une opportunité de présenter les difficultés que rencontre la population de la ville tous les jours depuis l'érection des barrières. Les systèmes de checkpoint a été instauré dans la ville de Bukavu après l'attaque des rebelles non identifiés la nuit du 1er au 2 novembre 2021. Jackson Kalimba, président du bureau urbain de la société civile de Bukavu.
Nous avions constaté que les checkpoints constituent l'endroit à l'occurrence où la police et l'armée rançonnent la population. Nous avions pensé que ça serait opportun que les généraux puissent supprimer les checkpoints et qu'on puisse sécuriser les entrées de la ville de Bukavu.
Le commandant 33e région militaire a quant à lui salué l'initiative de la société civile qui tient régulièrement à l'œil le comportement des militaires commis au contrôle de la circulation nocturne des véhicules et des passants sur les principales artères de Bukavu. Le général Yav Avula Robert a promis de diligenter les enquêtes avec les officiers de l'état-major pour punir tous les militaires qui commettraient des bavures lors des patrouilles des sécurisations de la ville. Toutefois, le général se dit personnellement satisfait des résultats positifs du couvre-feu. Les coups de tir nocturnes à balles réelles ont diminué dans la ville, renchérit le commandant de la 33e région militaire. Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Lutte contre la COVID-19, la Tunisie intensifie ses restrictions sanitaires. Les rues de la capitale tunisienne vident tôt ce vendredi matin. Seulement quelques rares patrouilles de véhicules de la police veillaient au respect du couvre-feu imposé dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 dans le pays. Le gouvernement a adopté jeudi une batterie de mesures dont l'interdiction de rassemblement public et promis d'intensifier les opérations de vaccination. Les contrôles sanitaires aux frontières seront renforcés. Les voyageurs seront soumis à des tests systématiques avant d'entrer en Tunisie.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est le chef de bureau de la MONUSCO Sud Kivu, Karna Soro, qui fait une mise au point sur la fermeture de la base militaire de la MONUSCO dans le secteur de Bibokoboko, dans le sud du Sud Kivu. Pour quelles raisons la base militaire temporaire de la MONUSCO à Bibokoboko a été fermée et comment assurer la sécurité de la population? Karna Soro nous répond dans cet entretien accordé à Rachel Kessembangu.
Monsieur Carnassoro, bonjour.
Bonjour.
Confirmez-vous le retrait de la base militaire de la MONUSCO dans le secteur de Bibokoboko, dans le territoire d'Ouvira?
Il ne s'agit pas d'un retrait, il s'agit d'une fermeture puisque c'était une base temporaire qui avait été ouverte en appui au FRDC donc qui protégeait la population civile qui vivait dans cette zone.
Quelles sont les raisons qui ont poussé la MONUSCO à s'y installer temporairement et quelles seraient les raisons aujourd'hui de cette fermeture?
Pour rappel, la zone de Bibokoboko a été l'objet d'attaques de la part des groupes armés du 13 au 14 novembre 2021. Ces attaques-là, en fait, avaient été organisées profitant d'un vide qui avait été créé par la rotation des troupes FRDC. Et je rappelle aussi que c'est le seul endroit où il n'y avait pas eu d'attaque dans tous les hauts plateaux jusqu'à ce jour. Donc, profitant de la rotation des FRDC, le 13 novembre, les groupes armés ont attaqué la zone, brûlé les villages donc, et poussé les populations à fuir vers Baraka. Immédiatement, nous sommes rentrés en contact avec les FRDC dans le cadre de la coordination des opérations et dans un premier temps, nous avons travaillé sur sécuriser les populations déplacées qui étaient arrivées à Baraka. Dans un deuxième temps, lancer des opérations de dissuasion sur la zone pour repousser les groupes armés qui étaient là, ensemble avec les FRDC, ce qui nous a amené donc à la date du 28 où la MONUSCO a déployé sur Bibokoboko une base temporaire. Encore une fois, en articulation avec les FRDC qui sont arrivés le 29 sur zone. Le travail de nettoyage et de ratissage a continué et à partir du 31, les populations qui étaient à Baraka sont revenues sur place à Bibokoboko. Nous sommes restés avec les FRDC, nous avons consolidé les positions, les ratissages ont été conduits, les FRDC ont eu le temps aussi de mettre en place leur dispositif et en plus, nous avons pu obtenir de la part des autorités congolaises le renforcement des effectifs de la police nationale sur place. Sur Bibokoboko, il y avait 12 policiers. Nous avons travaillé avec les autorités qui ont affecté à Bibokoboko 30 autres policiers qui sont arrivés de Kinshasa et qui ont été déployés sur place donc autour du 31 novembre pour pouvoir faire donc la police au niveau de la communauté. Donc en plus du bataillon FRDC, nous avons maintenant une présence de PNC sur place à Bibokoboko. Encore une fois, je le rappelle, j'entends beaucoup dire que les populations qui sont à Bibokoboko sont sous la protection de la MONUSCO. Je voudrais corriger cela. Les populations sont sous la protection des forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par la MONUSCO. Il est très important de rétablir cela. Donc ce sont les FRDC qui les protègent et nous appuyons les FRDC. Et donc nous sommes arrivés sur place, nous avons consolidé les positions, nous avons travaillé avec les FRDC, le dispositif sécuritaire a été renforcé. Nous avons aussi travaillé avec les communautés pour mettre en place des systèmes d'alerte communautaire. Maintenant que tout ça est en place, notre base qui était une base temporaire constituée essentiellement de notre unité d'intervention, peut se retirer donc pour se tenir prêt à nouveau à intervenir et appuyer si besoin était sur une autre de nos 5 bases dans la zone.
Quelle est à ce jour la situation sécuritaire dans le Sud-Sud?
Les groupes armés continuent à être actifs. Ils continuent à assassiner, à violer et à piller lâchement les populations civiles, toutes origines confondues. Nous continuons à documenter les violations. Nous travaillons aussi avec les FRDC, que ce soit au niveau des hauts plateaux, que ce soit au niveau des moyens plateaux ou que ce soit au niveau de la plaine de la Ruzizi, pour renforcer autant que faire se peut la protection des populations civiles. Nous avons aussi engagé en appui au nouveau programme de désarmement communautaire un certain nombre de campagnes de sensibilisation pour pouvoir récupérer les armes qui circulent de façon massive dans cette zone.
Monsieur Carnassoro, je vous remercie.
Merci.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.